France Culture.
Quentin Lafay, à voix nue.
Nicolas Sédoux, président de Gaumont.
Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, le présent et l'avenir de l'Empire. Bonjour Nicolas Sédoux.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui dans ce dernier entretien que vous nous
accordez.
C'est bien dommage. On pourra en refaire une série si vous le souhaitez, car on a encore beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais qu'on évoque le présent et l'avenir, le vôtre, celui de Gaumont également. Mais d'abord, c'est la troisième fois que je vous rencontre, je veux dire, en dehors de ces entretiens, et à chaque fois, vous êtes vêtu de la même façon. Vous portez un costume, une cravate, comme un dirigeant d'entreprise, une façon très, très institutionnelle et élégante de se vêtir. Et en même temps, vous avez toujours, on l'aperçoit, des baskets. Expliquez-nous ce que ce mélange, c'est peut-être une interprétation facile de ma part, mais ce que ce mélange-là dit de vous, notamment dans votre rapport à l'entrepreneuriat et à l'avenir à 84 ans.
Alors, les baskets ont malheureusement une origine qui n'est pas uniquement esthétique, mais qui ont plutôt une origine de confort. L'année dernière, à la même époque, on m'a opéré de la colonne vertébrale. Il y a pas tellement longtemps, pour d'autres raisons, j'étais de nouveau à l'hôpital, mais vous voyez, je suis en pleine forme. Et donc, les baskets sont fondamentalement là pour avoir une semelle plus épaisse que la semelle de cuir et moins me taper la colonne vertébrale. Et grâce à ces baskets, une bonne journée, je fais plus de 10 km, donc surtout que vos auditeurs ne soient pas inquiets. La cravate. La cravate, je la porte également à Cannes, ce qui surprend tout le monde. Je porte une cape rose avec des marguerites quand je monte les marches. Et donc, je pense que j'ai par rapport à moi-même un peu plus de distance, peut-être que je n'en aurais eu il y a 20 ou 30 ans. Et enfin, eh bien, oui, je porte une cravate parce que je pense que l'habit fait le moine. Je dirais que c'est ma tenue de fonction, quoi. Voilà, les soldats ont un uniforme. Moi, j'ai un uniforme. Je trouve que c'est assez normal qu'un chef d'entreprise soit bien habillé. Voilà, mais les baskets et la cravate.
Racontez-nous, vous nous avez dit au début, là aussi, de cette série d'entretiens, que votre conviction profonde, celle qui fait que vous vous engagez avec sincérité dans votre travail et dans votre entreprise, c'est la conviction que le cinéma n'est pas mourant et sans doute d'ailleurs ne mourra jamais. Pourtant, dans une époque de bouleversement absolument majeur, l'arrivée des plateformes comme entité de diffusion, c'est un mot à la mode que j'aime pas du tout, mais c'est pas grave, de contenu audiovisuel, de films et de séries notamment, ce sont également les plateformes de nouveaux financeurs de la création. Est-ce que ces nouveaux arrivants-là vous inquiètent? Est-ce qu'ils pourraient, sinon engendrer la mort du cinéma, au moins fragiliser le cinéma?
Mais il n'y a aucun doute. Si vous voulez, dans nos entretiens précédents, j'ai essayé d'expliquer comment le cinéma britannique et le cinéma italien n'étaient plus ce qu'ils avaient été, et comment seul en Europe, le cinéma français avait résisté. Et il avait résisté parce que ces entrepreneurs, ces acteurs, ces auteurs, ces comédiens s'étaient battus, et s'étaient battus pour convaincre les pouvoirs publics de faire en sorte que la télévision ne soit pas un aspirateur, comme vous venez de le dire, de contenu, mais soit un partenaire dans la production et la diffusion des films. Pourquoi je dis « et la diffusion » Parce que c'est pas du tout la même chose de diffuser un film aux grandes heures d'écoute ou de le diffuser à minuit, qu'il est évident qu'à minuit, il y a très peu de spectateurs potentiels. Et que donc, si le cinéma est mis dans les placards, ou bien simplement pour obéir à des obligations, il sort entre 2h et 4h du matin, eh bien, quelque part, on participe à sa mort et à son enterrement. Donc, les pouvoirs publics sont indispensables pour qu'il y ait un minimum de réglementation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les télévisions françaises sont des nains face aux plateformes. Dans un cas, on parle en petits milliards, et dans l'autre cas, on parle en centaines de milliards. Je pense à cet égard, d'ailleurs, que la commission de la concurrence a été totalement à côté de la plaque en décidant que TF1 et M6 ne pouvaient pas fusionner. Si je ne me trompe pas, on évoque un marché pertinent. Marché pertinent, mais le marché pertinent, c'est pas le marché pertinent de la télévision. Et en plus, comme vous venez de le dire, ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien à côté de ce que nous allons vivre. Donc, il faut que les pouvoirs publics interviennent. Si ils interviennent comme nous le souhaitons, c'est-à-dire que les plateformes participent de façon significative au financement du cinéma, un, et deux, que les plateformes respectent la chronologie des médias, c'est-à-dire fondamentalement de laisser à la salle une exclusivité suffisante. À ce moment-là, les plateformes complètent le financement du cinéma, donc d'un côté le cinéma lui-même, d'autre part les télévisions et d'autre part les plateformes. À ce moment-là, je crois tout à fait à son avenir. Je crois à son avenir pour des raisons que j'ai déjà évoquées rapidement, mais sur lesquelles je vais insister en partant du dernier arrivé, du dernier arrivant, dernier arrivé. Vous vous promenez partout, chacun a son écran, et je dirais que l'utilisation de l'écran est un peu inversement proportionnelle à l'âge. Les gens de ma génération, pour l'essentiel, quand ils regardent les monuments, ils regardent la rue, ils regardent leurs voisins, éventuellement, ils regardent leurs pieds parce qu'ils ont peur de tomber. La génération des cinquantenaires, il y en a 15 sur 2 qui est sur son écran. La génération, on peut pas dire les vingtenaires, tiens, des 20-30 ans, ils ont tous leur écran, y compris d'ailleurs les bébés dans leur landau, qui à 2 ans, avec leur tétine dans la bouche, sont collés à un écran et des parents qui regardent ailleurs. Tout ça pour dire que ils regardent et personne ne sait ce qu'ils regardent. D'ailleurs, très souvent, ils zappent à une vitesse absolument extraordinaire, c'est-à-dire que ils sont sur un programme, puis ils passent sur un jeu, puis ils passent sur un autre programme. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée fondamentale qu'une œuvre est faite pour regarder dans la mesure du possible du début à la fin. Que ce soit un auteur qui écrit un livre, que ce soit un réalisateur qui sort un film, il souhaite que son film il soit vu par le début et qu'on termine à la fin. Et je pense que c'est quelque part cela qu'on peut appeler culture. Parce que quand on a déjà lu un livre 7 fois, relire un passage au milieu, la 8e et la 9e, c'est normal. Mais quand on ne l'a jamais lu, alors soit il vous ennuie, je comprends très très bien qu'on le pose, mais s'il vous intéresse, il est fait pour être pris dans son entité et permettre à ceux qui sont là, les membres de la famille, les amis, de dire qu'est-ce que tu en penses. On ne peut pas avoir une pensée définitive sur un livre, sur un film, sur un monument, en ayant regardé 30 secondes et en disant « c'est nul ». Alors, si c'est génial, en général, on passe plus de 30 secondes. Mais je trouve que 30 secondes, c'est un peu insuffisant pour dire que c'est nul. Et autour de l'œuvre cinématographique, audiovisuelle ou littéraire, il y a les commentaires qui vont avec. Alors, c'était autrefois les commentaires des professeurs. J'espère à cet égard, d'ailleurs, que le cinéma à l'école va se maintenir en France, car il est absolument fondamental que les enfants aient la chance de voir, au cours de leur cursus scolaire, un certain nombre de films qui ne sont plus programmés régulièrement sur les écrans, parce que ce sont des films qui ont une certaine antériorité, qui font partie de l'histoire du cinéma, mais je pense qu'il est absolument fondamental que les enfants aient cette chance, et je dis bien cette chance, car c'est pour eux un plaisir de pouvoir découvrir ces films qu'ont aimés leurs parents ou leurs grands-parents. Et autour de cette salle de cinéma, justement, eh bien, il y a le commentaire avant quand on y va, après quand on en sort, espérons-le, pas pendant qu'on regarde le film. C'est l'inverse de la plateforme sur laquelle vous avez zappé sans arrêt. Parce que la plateforme vous offre X programmes, sans parler de ses concurrentes qui sont là, donc c'est X multiplié par Y multiplié par Z, et que c'est vrai que la tendance est, c'est peut-être mieux ailleurs, enfin, ceux qui aiment le sport, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui regardent les matchs de foot, ils passent pas sans arrêt d'un match à un autre, ils regardent un match dans sa continuité. Eh bien, un film, c'est encore mieux qu'un match, et j'ai le regret de dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les comédiens et les comédiennes sont moins payés que les footballeurs.
Pourtant, Nicolas Sédoux, vous vendez, en tout cas Gaumont vend des films, des séries en l'occurrence, à des plateformes. Une série bien connue, fabriquée, pensée par Gaumont, c'est Lupin, incarné par Omar Sy. Vous participez aussi à nourrir ces plateformes.
Mais j'espère bien. Nous nourrissons les télévisions, nous nourrissons les plateformes et nous nourrissons les salles de cinéma. Je pense qu'il y a complémentarité. D'ailleurs, je n'ai jamais dit les plateformes pour les abattre. Je crois que dans une émission précédente, je vous ai dit mes prédécesseurs, ils rêvaient d'une grève à TDF. Bon, personne aujourd'hui dans le cinéma ne souhaite que les plateformes disparaissent, souhaite que les plateformes rentrent dans un cadre qui respecte les lois et les règlements de la République française, à commencer par le droit d'auteur. Et que, pour être sûr que le droit d'auteur soit respecté, nous aimerions déjà mieux connaître leur audience exacte, puisque le droit d'auteur, par définition, la partie patrimoniale, elle est financée par le succès qu'a l'œuvre. Alors nous sommes ravis quand on nous dit que ça a été un succès, mais si on connaissait exactement le nombre de spectateurs, d'une part en France et si possible dans le reste du monde, qui ont vu telle ou telle œuvre, eh bien, ça nous irait tout à fait bien. D'abord, avoir un discours contre la modernité, c'est absurde. Une nouvelle technologie, elle est ce qu'elle est. Après ça, ce qui importe, c'est ce qu'en font les hommes. Et soit nous l'utilisons bien, la technologie, par définition, elle est neutre. Bon.
Justement, on va parler de la modernité. Il y a un autre grief qui est adressé régulièrement par certains aux plateformes, c'est d'être le cheval de Troie du politiquement correct. Or, ce politiquement correct, vous le décriez amplement dans ces mémoires, dans ce livre que vous avez fait paraître, Le cinéma 50 ans de passion, aux éditions Gallimard. Qu'est-ce que vous reprochez au politiquement correct? Est-ce que le politiquement correct, c'est pas aussi une façon de, j'allais dire, de respecter, oui, certaines formes de dignité humaine?
Oh là 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 là. Non, là, je crois que c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Le politiquement correct, c'est très américain. Et toutes les plateformes sont américaines aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait, il y a très longtemps, en matière de télévision, the least objectionable program. Pourquoi ? Parce que dans une société complexe, on ne veut pas avoir tout d'un coup certains qui disent « Ah, mais tel ou un tel est maltraité. » Et plus vous visez large, plus vous devez être politiquement correct. Et la force du cinéma, c'est que nous en avons parlé plusieurs fois, c'est que d'un côté, vous avez des films qui visent le très grand public, puis des films qui visent un public plus limité. Il est évident que si vous visez toutes les Françaises et tous les Français, il y a certains sujets qu'il est difficile d'aborder. Mais je pense que notre société en ce moment est en train de se rétrécir. 1973, Rabbi Jacob. 2025, impossible de tourner Rabbi Jacob. Je trouve ça très grave. Parce que si nous nous interdisons certains projets, c'est l'autocensure. Et ne pas parler des sujets, c'est comme ça que les mauvaises surprises arrivent. Voilà. Moi, je pense que on peut parler d'un sujet, donc vous avez employé le mot, alors là, qui me va très très bien, mais je pense qu'on peut parler de tous les sujets dignement. Et quand je regarde Rabbi Jacob, pour prendre une des très grandes comédies françaises, voilà, je suis, quel est le bon mot, triste est excessif, je ne veux pas avoir la tristesse, mais je regrette qu'on ne puisse plus tourner aujourd'hui. Or, on ne pourrait plus le tourner. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous auriez des gens un peu extrémistes sur les réseaux sociaux qui diraient « c'est trop ceci, c'est trop ceci, c'est trop cela ». Je trouve que la culture, c'est de parler de tous les sujets. Et il y a une phrase de Pierre Desproges, « on peut parler de tout, ça dépend avec qui ». Alors le problème de 2024, c'est que vous ne savez pas à qui vous parlez à cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, les propos que je tiens devant vous, on va en extraire trois phrases et on va dire, c'est nous, il a dit ça. Mais c'est nous, il a dit ça dans un contexte. C'est nous, il a dit ça en parlant à un interlocuteur journaliste, etc. Et que donc, sortir certaines phrases, certains mots, là, c'est simplement transformer ce qu'a voulu dire quelqu'un et lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons sûrement moins de liberté d'action. Et quand je dis nous, c'est nous, chaque citoyen. Hein, c'est vrai, évidemment, de la télévision et du cinéma. C'est vrai de la littérature. On voit bien certaines attitudes dans certaines écoles, certaines facultés, où on empêche l'autre de parler. Et ça, je trouve ça pas digne du tout.
Ce qui traverse aujourd'hui, Nicolas Sédoux, le cinéma comme secteur, les films également, c'est le mouvement MeToo. D'abord, comment vous le percevez? Et ensuite, comment est-ce qu'il vous incite à fabriquer autrement du cinéma, ou peut-être même à penser autrement la façon de voir, de regarder les films?
Dans votre question, il y a beaucoup de questions. La première, c'est qu'il appartient à la seule justice de condamner les gens. On peut estimer qu'elle est trop lente, on peut estimer que certains cas ont été traités trop rapidement. Eh bien, il faut voir si, sur ces sujets-là, la justice peut s'intéresser plus à certains sujets qu'elle ne l'a fait. Ce dont vous parlez, ça ne touche pas le cinéma. Ça touche l'ensemble de la société. Et je pense dans tous les pays du monde. Et hélas, toutes les études le montrent, ça commence par la famille. Et je pense que dans tous les secteurs, eh bien, il y a eu des drames qui n'ont pas été dénoncés, qui n'ont pas été jugés. Deuxièmement, vous parlez à quelqu'un qui a mis à la tête de la société une femme. Il se trouve que c'est sa fille. Je peux vous dire que ça ne simplifie pas la tâche, ça la complique plutôt. Il se trouve que la société française, mais c'était la même chose chez tous nos voisins, et je parle de nos voisins qui sont des démocraties et de nos voisins les plus ouverts, non seulement c'était pas mieux, mais c'était en général pire. Bon, la société évolue à grands pas vers sa féminisation, sans oublier, parce que beaucoup de gens oublient, je suis même frappé, je crois que je l'ai vu nulle part, lu et vu nulle part, sans oublier que certains postes n'auraient jamais pu être occupés par une femme il y a 80 ans. C'est hors de question de piloter un avion ou un tracteur. On trouve normal d'avoir une femme piloter un Airbus, être sur sa 1000 cm3, pas toujours à 130. Tout ça était inenvisageable. Voilà, il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Parce que quand je dis 80 décennies, pour d'autres, c'est simplement 50 décennies. Donc, féminisation de la société, très bien. Voilà. Mais donc, c'est une évolution générale de la société. Et sur certains sujets, le cinéma est, à ma connaissance, le seul secteur qui, depuis 2017... et pris des mesures pour que ces comportements inadmissibles soient contrôlés, à ce que je sache, je n'ai pas entendu d'autres secteurs économiques qui l'avaient fait. Donc, oui, il y a eu des comportements inadmissibles. Hélas, nous ne sommes pas les seuls, et je pense que nous sommes les premiers à avoir essayé de nous comporter le mieux possible.
Cela, c'est pour le présent, Nicolas Sédoux. Vous avez commencé en creux dans votre réponse à aborder le sujet important de l'avenir à travers la figure de votre fille que vous avez placée à la tête de l'entreprise. Et quand vous mentionniez votre fille, vous avez expliqué que ça apportait également son lot de complications. Pourquoi pourquoi
c'est-à-dire, si Denis a dit il n'y a pas très longtemps, j'aimerais bien un jour qu'on arrête de s'étonner parce que je suis une femme directrice générale de Gaumont.
Si Denis, c'est votre fille. Donc.
Oui, je pense que beaucoup de femmes ressentent ça comme ça. Si on dit, une jeune femme qui est là, eh bien, non, considérez ça comme normal.
Mais c'est compliqué parce que c'est une femme ou et également parce que c'est votre fille, parce que la succession.
Là, vous aviez le tableau complet, népotisme plus femme. Alors, je pense que femme, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui que ça ne l'était, puisque ça s'est quand même passé il n'y a pas loin de 20 ans maintenant, que vous avez à la tête de France Télévisions une femme, vous avez à la tête de Radio France une femme. Enfin, je crois que le président de la République y est très attentif et à juste titre. Ça n'a pas toujours été le cas, on peut dire les choses autrement, c'était même significativement des hommes. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que, écoutez, moi j'appartiens, je crois, à une génération où pour la première fois, ben, une femme est rentrée à Polytechnique. C'était quoi? C'était il y a 40 ans. Eh bien, le temps qu'elle prenne les rênes, voilà, qu'il y ait un certain nombre de polytechniciennes, il y avait déjà des centraliennes, mais elles n'étaient pas très nombreuses. Ça prend un certain temps avant qu'elles soient en âge d'avoir les responsabilités principales.
Si je vous parle de l'avenir, Nicolas Sédoux, c'est évidemment parce qu'il vous a toujours intéressé en tant qu'entrepreneur. Ce qui vous a toujours passionné, me semble-t-il, en vous lisant, c'est également ce que deviendra la culture. Et cela, notamment à travers un objet particulier, qui est le Forum d'Avignon, au sein duquel vous avez joué un rôle important. Qu'est-ce que ce Forum d'Avignon a représenté pour vous et de quoi a-t-il accouché, ce forum, en termes de réflexion sur l'avenir de la culture et notamment, évidemment, de la culture française?
Mais malheureusement, il n'est plus, parce que c'était un doux équilibre entre les pouvoirs publics et des initiatives privées. Et je regrette qu'il ne soit plus, parce que réfléchir à la culture... Les Français ont toujours pensé que la culture était innée à leur pays, et je pense que pendant un certain nombre de siècles, ça a été exact. Nous nous sommes intéressés avec d'autres, mais quand je pense à d'autres, je pense fondamentalement à nos voisins transalpins, à l'Italie. Que voilà, les rois de France s'intéressaient à la culture, ils ont... Contrairement à ce que disait un jour quelqu'un, ils n'ont pas été volés des œuvres en Italie, mais il faut se faire à l'idée que François Ier a acheté des tableaux, que son prédécesseur aussi, et que Léonard de Vinci a vécu en France un certain nombre d'années, il est d'ailleurs mort en France. Et que l'État, donc, en commençant par les rois, se sont intéressés à la culture et à sa suite, l'État. Que le fonds de soutien, qui n'est pas l'argent du contribuable, mais qui est l'argent du spectateur, du téléspectateur, et je ne sais pas comment on appelle celui qui regarde les plateformes, j'aime bien le mot téléspectateur, plateforme, ça va, il faudrait trouver un mot.
Consommateur.
Oui, mais justement, essayons d'éviter contenu et consommateur. Et je crains que ça le devienne de plus en plus. Donc, c'était un lieu d'échange. C'est-à-dire que la culture, il n'y a pas un axe. Si, on peut dire, ce que j'évoquais tout à l'heure, bah peut-être que pour les jeunes Françaises et les jeunes Français, qui leurs aînés faisaient du grec, après ça, plus de grec, mais encore du latin, après ça, plus de grec et plus de latin, mais encore les auteurs français, de moins en moins d'auteurs français, je pense que la culture générale est indispensable à des gens comme nous. Parce que c'est très bien de parler d'intelligence artificielle, mais... l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec celle de demain. Et donc, être à même de comprendre les évolutions, non pas technologiques, mais les comprendre intellectuellement, si vous voulez, Gaumont est toujours là, parce que au-delà des soucis du présent, il faut toujours regarder au-delà. Et effectivement, je me dois de regarder à ce que va nous apporter l'intelligence artificielle. Je le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est un moyen. Donc, c'est ce que nous en ferons qui importe. Dire qu'elle présente des inconvénients, on l'utilise, c'est l'homme qui l'utilise mal, qui fait qu'elle a des inconvénients. Mais on voit bien, si elle est mal utilisée, tous les dangers qu'elle peut représenter. En revanche, on voit dans certains secteurs, je lisais il n'y a pas longtemps un article sur ce que va apporter l'intelligence artificielle à la médecine. Bon, ben on ne peut que s'en réjouir. Voilà, le fait que des diagnostics puissent être faits plus vite, mieux, pour des gens qui sont isolés, qui n'ont pas la chance d'être à côté d'un grand hôpital, eh ben c'est simplement une chance de plus, pas seulement de survie, mais de vie en bonne forme et, oserais-je dire, en pleine forme. Donc, moi, je crois tout à fait. Alors, l'homme est capable du pire, il faut être clair. On en a malheureusement quelques exemples en ce moment, même si on n'écoute pas tous les jours la radio et on ne regarde pas tous les jours la télévision. Mais l'homme est capable du meilleur. Et ce à quoi nous devons nous efforcer, c'est que ce soit le meilleur et pour le plus grand nombre. Voilà. Et moi, je reste... D'abord, si on est dans le cinéma, on peut pas être autrement, mais même, je dirais, si on est un être humain, il faut absolument rester optimiste, optimiste dans notre capacité à faire mieux et toujours mieux. Parce que détruire, c'est finalement assez facile.
Je ne sais pas, Nicolas Sédoux, quand vous quitterez Gaumont, si même vous quitterez Gaumont, d'ailleurs, ça ne me regarde pas, mais est-ce que parfois vous rêvez de cet après et comment vous le rêvez ?
Écoutez, à l'âge que j'ai, pour le moment, j'envisage effectivement pas de quitter Gaumont. J'ai une position qui est une position fonctionnelle, je ne suis plus opérationnel. A priori, j'ai réussi à passer presque 5 fois une demi-heure avec vous en n'ayant pas trop dérapé sur tous les sujets. J'espère que ce sera encore le temps assez longtemps. Et si je deviens complètement gâteux, j'espère qu'il y aura des gens assez intelligents pour me dire « Écoute, c'est bien, reste un peu plus chez toi et ne viens pas nous casser les pieds. » Mais ce que je crois aussi, c'est que j'étais très surpris par le débat sur les retraites. Car, alors évidemment, pour moi, c'est une chance. Mais penser tous les matins, se tenir informé tous les matins, avoir envie de faire quelque chose le lendemain tous les matins, c'est ce qui maintient en forme. Moi, j'ai vu des retraités qui rêvaient d'être à la retraite. Donc, les 2 premières années se passent bien. Et à partir de la 3e, ça devient un désespoir complet. Vous lisez dans tous les journaux pour être en forme. D'abord, faites de l'exercice. Bah oui. Si vous restez uniquement devant votre téléviseur ou votre petit écran, il faut sortir de chez soi, il faut regarder ailleurs, regarder les autres, leur parler. Parfois, si vous leur cassez trop les pieds, bah, ils n'ont plus envie de leur parler. Donc, ça, vous voyez ça dans le regard. Quand vous commencez à voir le regard qui fuit, c'est mauvais signe.
Et le vôtre, en tout cas, ne nous a pas quittés au cours de ces 5 échanges. Et je vous en remercie sincèrement. Merci aussi pour la vivacité de vos propos, Nicolas Sédoux.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Vous savez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur un certain nombre de sujets, nous avons besoin de passeurs. Et les journalistes sont des passeurs. Et je pense qu'ils le sont d'autant plus au moment où les fausses informations circulent de plus en plus et qu'il faut être extraordinairement attentif à cela et qu'au-delà du rôle personnel de chaque journaliste, un rôle évident du service public.
Merci Nicolas Sédoux.
Merci.
C'était À Voix Nue, Quentin l'a fait avec Nicolas Sédoux. Réalisation Manouchak Fachaï, coordination Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil. Vous pouvez retrouver cette série et toutes les émissions d'À Voix Nue sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.